Les morts sont parmi nous, zombies, ghouls, somnambules, appelez-les comme vous voudrez. Jamais l'humanité n'a connu péril plus dangereux, en dehors d'elle-même bien entendu. Et gardons-nous de les considérer comme de simples prédateurs avides de chair humaine. Ce sont avant tout des parasites que nous hébergeons malgré nous. Voilà ce qu'écrit le furieux Max Brooks, qui est le grand auteur aujourd'hui de la littérature de mort-vivant, à qui l'on doit World War Z notamment adapté sur grand écran. Voilà ce qu'il écrit dans un texte aussi jubilatoire que paranoïaque et violent, qui s'intitule « Guide de survie en territoire zombie ». On y apprend mille et une choses très utiles dans la vie de tous les jours, à commencer par le fait que le mort-vivant est bel et bien là, ici, maintenant, et que la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est de l'accepter. Soyez attentif au moindre mouvement, écrit Max Brooks. Prêtez attention aux ombres, aux silhouettes. Arrêtez-vous régulièrement et tendez l'oreille. Entendez-vous des bruits, de pas, des branches brisées? S'agit-il du vent ou bien d'un gémissement? Vous croyez que le monde entier vous en veut? Vous avez raison. Le zombie, en fait, c'est ce que l'on comprend depuis Romero et dans tous les films qui en ont fait un héros. Le zombie, c'est vous, c'est nous, c'est notre inconscient.
Boomerang, spécial Cannes.
À Cannes, dernier arrivage de vedettes.
France Inter, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang au Festival de Cannes. Mon invité d'aujourd'hui n'a rien d'une zombie. Il lui est pourtant arrivé d'incarner de bien étranges créatures, bonnes et blanches fées dans le monde de Narnia, sorcière démoniaque dans l'adaptation de Suspiria, vampire évidemment dans Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. C'est chez ce dernier, dans The Dead Don't Die, présenté avant-hier en sélection officielle, en compétition et en ouverture de cette 72e édition du festival, qu'on la retrouve actuellement au cinéma. L'histoire d'une petite ville dont la paisible existence se voit bouleversée par le réveil de ses morts. Bonjour, Tilda Swinton.
Bonjour, Gus.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, vous en connaissez des zombies, vous ?
C'est intéressant, quand on a commencé à tourner ce film, on s'est dit on en connaît tous des zombies. Oui, je répondrai que oui.
Qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous, cette figure du zombie aujourd'hui ? Où sont-ils, les zombies ?
On a tous eu ce sentiment
de
dormir tout en se déplaçant, d'être très occupé, de diriger la vie des autres de façon très autoritaire et efficace tout en dormant. Ça, c'est un sentiment que je connais.
Vous voulez dire que vous êtes un zombie, Tilda ?
Non,
pas du tout. Seulement dans ma vie privée, de temps en temps, j'essaie de ne pas ressembler à une zombie.
Dans notre inconscient collectif, c'est aussi la peur de la mort, tout simplement. Le zombie, dans quelle mesure la mort vous fait peur, à vous ?
Je n'ai pas du tout peur de mourir. Je peux le dire très fièrement à la radio nationale et internationale. J'ai accompagné mes deux parents en fin de vie. Et sincèrement, je suis prête.
En tout cas, ce qui est passionnant, c'est que le retour des morts sur Terre dans des œuvres de fiction apparaît aussi comme une forme d'avertissement, toujours. De quoi les zombies du film de Jarmusch nous avertissent-ils, à votre avis ?
Je pense qu'il faut poser la question au réalisateur. Mais pour moi, c'est la représentation des tueurs de zombies qui compte. Ces personnages, et puis bien sûr, il faut voir le film pour savoir qui va être zombie et qui va les tuer, les zombies. Leur curiosité d'esprit et la façon dont ils s'adaptent, c'est ça qui compte. Et puis cette obsession.
Jim's zombies are fixated.
Les zombies de Jim sont obsédés par ce qui les obsédait dans la vie, par rapport au café.
Sarah Driver,
Iggy Pop, ou Carole Kane, qui est accro au vin blanc. Et puis il y a des gens qui déambulent dans le film, qui ont le portable vissé à l'oreille. On les connaît, on essaie de ne pas y ressembler.
Dans cette ville paisible, dans ces rues tranquilles, une chose terrifiante. Une chose horrifique va arriver.
Excuse me, we're closed. Get away from me!
What the hell was that?
Qu'est-ce qui a fait ça? Une bête sauvage?
C'est épouvantable. Probablement la pire chose que j'ai vue.
C'était quoi, plusieurs bêtes sauvages?
Alors, tu penses à quoi?
I'm thinking zombies.
Je pense à des zombies.
What?
Quoi?
You know.
The undead.
Bah, tu sais bien, t'es mort vivant.
Ghouls.
Vous êtes sublimes.
Oh my.
Mais, are you in the
vous êtes de mèche tous les deux.
Flesh eating zombies.
Don't joke, it's really, really creepy.
Oh man, this isn't gonna end well.
C'est terminé. Ils gravitent autour des activités qu'ils pratiquaient quand ils étaient en vie.
Coffee.
Chardonnay.
Did she just say Chardonnay?
Elle vient de dire Chardonnay.
Yeah, she did.
I can see that.
Ça va mal finir, justement. Cette phrase, on l'entend tout au long du film, The Dead Don't Die. Quand vous pensez au monde d'aujourd'hui, Tilda Swinton, qu'est-ce que vous en faites, vous, de cette phrase?
Évidemment, il faut se rappeler que le personnage qui le répète sans cesse est le personnage que campe Adam Driver. C'est lui, le philosophe parmi ces trois policiers. Et pour lui, il est évident qu'il s'agit d'un film de zombies. Il dit à un moment donné qu'il a déjà lu le scénario. Il le sait que dans un film de zombies, ça va mal finir. Et je pense que nous sommes tous impactés par ces platitudes qu'on entend au cinéma. Les gens disent qu'on ça ne pourrait pas être pire, c'est un désastre, c'est une catastrophe comme dans tel ou tel film. C'est dangereux. C'est dangereux parce que ça veut dire qu'on s'attache à une narration, on s'attache à la chute, à la fin. Mais ici, ce n'est pas un film, c'est la vie en vrai.
Mais à quel désastre, à quelle tragédie est-ce que vous pensez précisément?
Bien sûr, il y en a plein. Tout d'abord et avant tout, il y a la fin de la vie sur Terre. Et ça, ce n'est pas un film. Même s'il y a eu beaucoup de films sur cette fin, on ne vit pas un film.
Alors c'est très intéressant parce qu'évidemment, Tilda Swinton, ce n'est pas la première fois que vous apparaissez dans un film qui interroge les dérives et les conséquences environnementales de l'activité humaine. Je pense évidemment à des films comme Le Transpersonnage ou Okja du coréen Bong Joon-ho. Dans quelle mesure le cinéma peut-il avoir pour mission de transmettre un message précisément pour vous ?
Sincèrement, je ne pense pas qu'il faille suivre le slogan de Hollywood, comme quoi si on veut transmettre un message, il faut envoyer un télégramme. Ce n'est pas le but du cinéma. En même temps, comme le dit Slavoj Žižek, le cinéma nous montre nos désirs, nous montre nos fantasmes, ainsi que nos craintes jusqu'à un certain point. En même temps, nous sommes ici sur Terre, nous sommes vivants en tant qu'êtres humains et cette planète a une fin comme nous. Puis on ne pourra pas se lever et quitter la salle à la fin du générique. Il n'y a pas de solution de rechange.
Mais alors pour vous, Tilda Swinton, faire du cinéma, quel sens est-ce que ça a?
Tout d'abord, et dans un sens très pratique, ce qui m'attire, c'est la camaraderie. C'est pas la camaraderie lorsqu'on tourne un film, même si ça compte beaucoup. C'est pour cette raison-là que j'adore travailler comme actrice. J'aime travailler au sein d'une équipe, au sein d'une famille. Et j'ai commencé avec Derek Jarman ainsi, une famille très liée. On a travaillé 9 ans ensemble jusqu'à sa mort en 1994. Depuis lors, j'ai trouvé d'autres familles, dont celle de Jim Jarmusch, Bong Joon-ho et Wes Anderson, et bien d'autres encore. Je me sens privilégiée d'ailleurs à cet égard. Mais aussi cette camaraderie avec le public. S'adresser à un public mondial, ça m'inspire énormément. Ça m'intéresse beaucoup. J'adore établir ce dialogue avec tant de personnes dans le monde.
Et c'est le cas dans ce film de Jim Jarmusch, The Dead Don't Die, où une petite ville, on le disait, est progressivement envahie par des zombies. Vous y jouez un croque-mort ninja, Tilda, qui va aider les policiers à juguler l'invasion. Et ce qui est fascinant dans le parti pris de Jarmusch, c'est le détour par l'absurde, par l'humour et par une certaine poésie. Qu'est-ce qui fait de lui un poète pour vous?
C'est un poète né. Revenons à ma première rencontre avec Jim Jarmusch lorsque j'étais étudiante, il y a fort longtemps, dans les années 80. J'ai vu son premier film, Stranger Than Paradise, et c'était un choc pour moi, en tant qu'Européenne, de voir ce film américain du point de vue d'un étranger américain. C'est comme ça que je le considère. C'est un étranger qui vit aux États-Unis, mais c'est un étranger très américain qui parle de cette expérience d'étranger aux États-Unis. Et c'est ce qui compte pour moi. Et c'est ce qu'il continue de faire. Il a cet œil critique rempli de compassion par rapport à la société dans laquelle il vit. Et c'est ce qu'il nous montre à nous, non-européens, qui sont peut-être des étrangers, et il nous permet ainsi de comprendre les États-Unis. C'est cette notion ou ce sentiment de différence empreinte d'une forte empathie. Et il est incroyablement drôle en même temps.
Pour vous, c'est ça, la poésie? Vous qui rêviez d'être poète, Tilda?
J'ai toujours été poète dès l'enfance, d'ailleurs. C'est ma source d'inspiration, toujours. Je suis solitaire, mais en même temps, je veux absolument communiquer avec les autres. Mais en employant mes propres termes, sans avoir à suivre la syntaxe d'autrui, c'est très important pour moi. C'est important pour un poète. Et Jim Jarmusch est comme ça. C'est un personnage à part et... Tant d'années après son premier film, il est devenu maître. Il est maître depuis pas mal de temps d'ailleurs. Mais comme beaucoup de maîtres, de grands maîtres, il est possible de perdre de sa pertinence. Mais pour moi, il est de plus en plus pertinent.
Celle qui n'est pas poète dans cette émission, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est la culture et son actualité terre à terre, à les pâquerettes et en dessous de la ceinture. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 16 mai?
Il y a une légende, Romain Gary. Et je ne sais ce que j'ai fait pour en avoir une pareille. On dîne dans le monde sur le dos de Romain Gary.
Au-delà de cette limite, votre Pléiade sera bien valable. Près de 40 ans après sa disparition, l'insaisissable Romain Gary fait son entrée aujourd'hui dans la prestigieuse collection de papiers Bible et reliures d'or. Deux fois Goncourt, Cabotin, Dandy, écrivain de l'intime, de l'exil, des remous de l'Europe d'après-guerre, Gary Ajar voit ses écrits les plus fameux réunis dans deux volumes. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir certains des plus beaux textes de la littérature française, La vie devant soi, Éducation européenne, Les racines du ciel, La promesse de l'aube, Cœur avec les doigts.
Sold to you, Mark, at 126 million.
Ah bah c'est le Koons du lapin. Le rabbit du plasticien américain Jeff Koons a été adjugé 91,1 millions de dollars hier lors d'une vente aux enchères chez Christie's à New York. Une somme record pour un artiste encore vivant. La sculpture moulage en acier d'un lapin gonflable, haute d'un peu plus d'un mètre de haut, abattue d'un cheveu. Le record précédent détenu par David Hockney et son Portrait of an Artist Pool with Two Figures, tableau mythique qui s'était vendu en novembre dernier à 90,3 millions de dollars. Bref, pas de crise dans l'art. Infernal Machine, le centre d'art moderne du Barbican à Londres inaugure aujourd'hui IA, plus qu'humain, une grande exposition consacrée à l'intelligence artificielle en tout près de 200 installations à mi-chemin de l'art et de la science pour interroger les liens entre l'homme et la machine. On y voit des robots en pagaille, mais aussi une ruche synthétique capable de créer un printemps perpétuel pour enrayer la disparition des abeilles ou encore une IA capable de composer de la musique toute seule après avoir analysé l'intégralité de l'œuvre de Bach. Flippant, fascinant, bon, les deux mon général.
Cannes, troisième jour.
Quelle heure il est ?
9h30 AM.
Waouh, déjà ?
Non mais j'avance un peu.
Ah ben non, soyons précis. Il est 9h21, 25 secondes AM au fuseau de la Croisette. Et à Cannes, la compétition continue. Le double palmé britannique qui vient à Cannes comme on va à l'épicerie. Ken Loach présente Sorry We Missed You, charge engagée contre l'ubérisation de la société. La jeune cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop fait son baptême des marches avec le très attendu Atlantique. Et sinon, l'événement de la journée, bah, c'est la présentation hors compète de Rocket Man, le biopic glam pop paillette consacré à l'icône Elton John, signé Dexter Fletcher. La comédienne écossaise Tilda Swinton, invitée de Boomerang ce matin. Tilda, le public vous connaît pour la façon que vous avez de vous métamorphoser de film en film et parfois même au sein d'un même film. Il vous arrive de jouer plusieurs rôles à la fois. Je pense à Ave César des frères Cohen, je pense à Okja de Bong Joon-ho, mais aussi à Suspiria de Luca Guadagnino. Vous jouez carrément trois personnages. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, au fond, être une actrice? Est-ce que ce ne serait pas une expérience du dédoublement?
Pour moi, le jeu d'actrice, c'est une occasion de jouer avant tout. Jouer, c'est quelque chose de très simple, voire banal, un petit peu comme le concevrait un enfant de 6 ou de 12 ans. Aussi, c'est quelque chose de très vivant. Pour que les choses soient vivantes, il faut que je me sente engagée. Et franchement, je m'ennuie très vite. J'aime être intéressée et amusée, ça en fait partie. Plus sérieusement, je continue de travailler comme actrice plutôt que de remplir une autre fonction dans le monde du cinéma parce que je m'intéresse à ce concept d'identité. Cette idée que l'identité serait quelque chose de figé, qu'on n'en aurait qu'une et qu'elle ne change pas, qu'on l'est dès la naissance et on la respecte pendant le restant de ses jours sans sortir de ses limites. Pour moi, c'est un grand mystère. Ce n'est pas mon expérience personnelle de la vie. Sincèrement, je ne sais même pas si l'identité en tant que telle existe. Je pense qu'il est possible d'opter pour une identité différente à chaque moment de la journée, de rester fluide et souple. La société, à mon sens, commence à me rejoindre à cet égard. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'étudier l'être humain qui aurait une identité fixe, mais qui change malgré tout. Et puis, comme vous avez dit, il y a cette notion de dédoublement. Dans un film où je joue plus d'un seul personnage, peut-être qu'il s'agit d'une seule et même personne.
Et là, je pense tout de suite à Orlando, évidemment, ce personnage qui se transporte, qui se transforme à travers les siècles dans l'adaptation du roman de Virginia Woolf par Sally Potter. Vous aviez qualifié votre interprétation de non-performance. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça ?
Orlando, si vous ne le connaissez pas, c'est un livre écrit par Virginia Woolf. Il s'agit d'un jeune noble anglais, à un moment donné dans sa vie qui dure peut-être 400 ans, tout au moins dans le livre, peut-être qu'il est encore en vie maintenant. À un moment donné, il change de sexe et devient femme. Lorsque on discutait de ce concept, on s'est préoccupé de la notion de changement. Tout d'un coup, je me suis dit, non, il s'agit avant tout de cohérence, d'esprit authentique. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, cet esprit est souple, flexible et peut se transformer tout en restant identique. D'où cette notion de non-performance. Il suffisait que je change mon habillement, que je change de perruque et de siècle.
Pour l'artiste que vous êtes, Tilda, quel outil est-ce que c'est, votre corps ?
Mon corps est un outil très important. Ce n'est pas le seul, mais il reste extrêmement important. Comme j'ai dit, un petit peu comme un enfant de 6 ans peut se déguiser en chien pour la pièce de fin d'année. C'est amusant de jouer avec son corps et de ressentir ses limites.
Et quand est-ce que vous avez pris conscience, justement, des possibilités infinies que vous offrait votre corps ?
Probablement avant l'âge de 6 ans, comme la plupart des enfants. Quand j'étais assez jeune, quand j'étais jeune adulte, jeune artiste, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une industrie avec laquelle j'avais peu de choses en commun. Cette industrie a des idées très limitées par rapport au corps, le sexe, l'aspect du corps, et j'ai tendance à éviter ce type de personnes avec cet état d'esprit-là. Je préfère fréquenter les gens qui posent les vraies questions.
Jamais votre corps n'a été vécu comme une prison ? Jamais ?
C'est une question très intéressante. Ce qui me vient à l'esprit, c'est le fait que j'ai donné naissance avec joie à des jumeaux. Et à un moment donné, j'étais fascinée par l'idée d'avoir trois cœurs en moi. En dehors de cette époque de ma vie, non, je n'ai pas assez d'imagination peut-être pour considérer mon corps comme une prison.
On va reparler de limites de corps, d'esprit, juste après une chanson d'Iggy Pop quand même, qui joue un rôle délicieusement badant dans The Dead Don't Die, The Passenger évidemment, sur l'album Lost for Life. Vous êtes sur France Inter avec Tilda Swinton, vous écoutez Boomerang à Cannes et vous faites bien.
things from under glass. He looks through his window side. He sees the things he knows are his. He sees a bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is.
J'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau.
Augustin Trapenard, sur France Inter.
Oh, il n'y a pas de doute, hein, on est quelque part entre la grande prêtresse d'un club chamanique, un personnage sorti tout droit d'un portrait pré-raphaélite, une version 3.0 de la fée de Pinocchio, avec sa blondeur blanche, vous savez, son œil bleu, curieux, inquisiteur, aussi hypnotique qu'un écran de cinéma, son visage sculpté et son corps de liane. Face à elle, on a envie de rendre les armes de la parole, de se prosterner, c'est notre queen, hein, d'attendre qu'elle vienne nous libérer de sa voix d'oracle. Regardez-la avec sa robe incroyable, bleue, et ce col fou ce matin, ses lèvres rouges, la comédienne Tilda Swinton, invitée de Boomerang pour The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, actuellement en salle et dans lequel vous jouez, on le disait, une femme croque-mort à l'accent écossais très prononcé et qui se révèle être aussi une redoutable ninja à ses heures perdues. Alors ce personnage très énigmatique, il attire les regards et il est d'emblée désigné comme une étrangère. Dans quelles circonstances vous est-il arrivé à vous de vous sentir étrangère ?
En fait, jusqu'à un certain point, je me suis toujours sentie une étrangère. Je suis surprise lorsque les gens le nient. Mes proches, pour la plupart, admettent tous qu'ils ont eu ce sentiment à un moment donné dans leur vie, soit pendant la jeunesse, en changeant d'école, ou alors à l'âge adulte. Ou, pour certains d'entre nous, c'est un sentiment permanent. Pour moi, c'est une grande force. C'est même un luxe d'éprouver ce sentiment. C'est ce qui nous permet de nous sentir liés aux autres. Je ne crois personne qui dise qu'ils n'ont jamais éprouvé ce sentiment.
Étrangère aussi en Grande-Bretagne, vous qui revendiquez votre attachement à l'identité écossaise sans cesse.
Je suis très reconnaissante que vous m'ayez présentée comme une actrice écossaise. Souvent, les gens se trompent. Parfois, d'ailleurs, on m'appelle anglaise, voire pire, britannique, à éviter dans le contexte politique actuel et qui ne me correspond pas du tout. Oui, je suis écossaise.
Qu'est-ce qu'il y a de plus écossais en vous ?
Ah, je ne sais pas. C'est peut-être ce que je viens d'expliquer, d'ailleurs. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vécu ailleurs. J'ai grandi dans le sud de l'Écosse. Maintenant, je vis dans les Highlands avec ma famille. Je ne peux pas imaginer vivre ailleurs.
C'est une forme d'indépendance, peut-être.
L'Écosse, comme nous le savons, est totalement indépendante et l'a toujours été. C'est l'Angleterre qui ne l'est pas.
Et pour revenir sur ce sentiment d'être en dehors, d'être en marge, à part, étrange, autant qu'étrangère, petite, par exemple, lorsque vous étiez en pensionnat, qu'est-ce qui vous distinguait de vos camarades ?
Vous savez, de toute façon, je me serais sentie comme ça, peut-être. Je ne sais pas. Les enfants, notamment les enfants qui sont envoyés en pensionnat, se trouvent en dehors de leur zone de confort, ont tendance à se regrouper pour se sentir les mêmes, un peu comme des moutons. Et moi, j'étais différente. J'étais très grande déjà à l'âge de 10 ans. J'étais comme je suis maintenant. Donc, j'étais déjà très différente des autres, en marge. Et j'ai revendiqué ma différence plutôt que de le subir.
Et quel rapport est-ce que vous entreteniez, Tilda, avec les arts ? Quel refuge, peut-être, était-il ?
En fait, j'ai toujours eu une relation très profonde avec l'art dès un jeune âge. Je n'ai rencontré d'artistes vivants qu'assez tard, presque à la fin de ma scolarité. Mais il y avait un moment très fort à la maison. Mon père était un soldat éminent et il faisait peindre un portrait officiel par un peintre. J'avais peut-être 9 ans. J'ai entendu mes parents dire « il y a un peintre qui va revenir à la maison, ils en parlaient comme s'il était une sorte de bête sauvage. En fait, il y avait cette notion étrange, presque érotique. On en avait peur, on était excité à l'idée aussi que cet artiste allait se rendre chez nous. Et j'attendais impatiemment de le voir, mais je n'ai aperçu que son ombre au fond du couloir. Et c'est à ce moment-là, peut-être, que j'ai commencé à chercher le monde des artistes.
Vous avez conscience que si ça se trouve, on vous regarde de la même façon aujourd'hui, avec ce même sentiment de terreur, Tilda.
Avoir peur de moi. Seuls les gens qui sont trop paresseux pour aller plus loin.
Quel serait l'un de vos premiers chocs artistiques, à part ce portrait?
Oh, let me think. Voyons.
J'essaie de me rappeler. Le tout premier film que j'ai vu et que j'ai gardé en tête pendant des années sans savoir que c'était un film. En fait, je n'ai jamais trouvé quiconque qui l'ait déjà vu. Il s'agit d'un film de Charles et Ray Eames qui s'appelle Powers of Ten. On peut le voir maintenant sur YouTube. Ça dure peut-être 16 minutes. C'est un film scientifique où on quitte l'univers. On va très loin dans l'univers pour revenir sur Terre et atterrir sur le dos de la main pour pénétrer dans la circulation sanguine et les cellules. Pour moi, c'était comme un tremblement de terre. Pendant des années, je demandais aux gens s'ils l'avaient vu. Personne ne l'avait vu. Je me suis dit, c'est un rêve. Il y a quelques années, j'ai découvert que c'était un film, en effet. Quand je programme des films, notamment pour des jeunes, je montre toujours celui-là. C'est un bon début car c'est du cinéma pur, cinéma existentiel.
3 2, 1, 0. Nous sommes revenus à notre point de départ. Maintenant, nous allons réduire la distance qui nous sépare de notre destination finale. Nous nous approchons de la surface de la main. Dans quelques secondes, nous allons pénétrer sous la peau, en traversant les diverses couches, depuis les cellules mortes les plus extérieures, jusqu'à l'intérieur d'un minuscule vaisseau sanguin.
Ça voudrait dire quoi, le pur cinéma, pour vous, justement?
Oh, it means a lot.
Ça veut dire beaucoup de choses. Le cinéma pur, c'est un... Enfin, tout le cinéma, tout l'art, mais notamment le cinéma, nous invite à nous mettre à la place de quelqu'un d'autre, dans le noir, dans un grand espace où il y a beaucoup d'autres étrangers. Ça, c'est très important. C'est pour cela que le grand écran ne disparaîtra jamais. On en aura toujours besoin. Et le cinéma pur, c'est le cinéma suite à cette invitation qui vous permet d'être transporté, de transcender son corps, de transcender son temps, de transcender ses propres souvenirs pour rencontrer autre chose. C'est de la magie et c'est cette magie que justement nous offre le vrai cinéma.
Et la beauté, Tilda Swinton, qu'est-ce qui ferait pour vous la beauté d'une image de cinéma?
Ça aussi, c'est une question très importante. La beauté dans le cinéma, à cause de la dimension de l'écran et de la manière dont la caméra peut se rapprocher, s'éloigner et vous transporter en l'espace d'une seconde entre ces deux perspectives, on transcende le corps puisqu'on se déplace grâce à l'objectif de la caméra en tant que spectateur. Et c'est ça la beauté, cette notion de flexibilité, de fluidité et de transport.
En fin de compte, c'est ça la beauté pour vous, tout simplement?
En effet, c'est la fluidité et la flexibilité.
Merci infiniment, Tilda Swinton, d'être venue faire un tour dans cette émission. Merci à votre interprète ce matin-là, moins zombie que Bisou, Sarah Combette. Je rappelle que The Dead Don't Die de Jim Jarmusch avec Bill Murray, Adam Driver, Chloé Sevigny, Tom Waits, Selena Gomez, entre autres, est actuellement en salle. C'est un film des plus fous et des plus drôles aussi, tout de suite. Les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Thank you, Gus.
Il grêle, mes pupilles belles, tes peaux mortes qui se perdent dans ton regard à la traîne. Fidèle, fidèle, c'est fêlé ma tête sans que je le décèle. Mais tu m'as rappelé les règles, nos affaires à faire. Dans la rigole, pas sans faire si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle. Je vois que tes yeux me disent, reviens me chercher, prouve-moi, approuve-nous, viens me chercher. Mais présentement,
mais pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle, cette girouette qui est dans ma tête. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle, cette girouette qui est dans ma tête. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. J'essaie de te rassurer, mais j'assure pas. Puissent les astres nous susurrer leurs astuces fiables. Pour durer ad vitam sans doute, même dans le désert, quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser. La rage maintenant inonde toute tête menaçant. J'aurais dû voir avant les grandes eaux couler sur tes joues maussades. J'suis trempé à mon tour, plus aucun rempart. Tout explose, cette marée a que s'empare de mes entrailles. Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire.
Présentement, Aloïs Sauvage sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers et son instant même. Présentement.
Salut Augustin, à demain.